Nous prions dans le nom de Yeshua. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te louons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Tu es le seul vrai Dieu. Toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, reçois toute la gloire au Père dans le nom de Yeshua, Jésus en français. Ô Père céleste, je te prie, la Père, de me donner la grâce de dispenser droitement de ta parole, afin que ceux qui m'écouteront, ceux qui m'écoutent, soient édifiés, fortifiés, afin qu'ensemble, ô Éternel, notre Dieu, la paix, nous puissions marcher dans ta parole, dans tes voies, là, Seigneur, Éternel, notre Dieu, au fur et à mesure que le temps passe, que notre amour pour ta parole, pour l'obéissance, s'affermisse de jour en jour au nom de Yeshua. Et permet aussi, Seigneur, que quelle que soit la situation, que nous puissions t'obéir en toutes circonstances, soit bonne ou mauvaise. Enfin, qu'ensemble, Père, nous allions vers l'unité de la foi et vers la statue parfaite de Christ. Père, éclaire-nous par ta parole, Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Merci pour ce moment, que toute la gloire te revienne, dans le nom de Yeshua. Amen et Amen. Je vous salue, mes frères et sœurs, dans le très beau nom de Yeshua, Jésus en français, notre Messie à tous. Que son nom soit glorifié. Voilà. Bon, aujourd'hui, je voudrais simplement partager quelque chose avec vous dans le livre de l'Apocalypse. Le chapitre 2 et le chapitre 3. Il y a une idée, en lisant ces passages, une idée qui m'a traversé l'esprit et j'ai voulu mettre ça par écrit, en tout cas, mettre ça en message, parce que je me suis dit que le Seigneur a fait des reproches, des recommandations, des constats à des sept églises, dans ces sept églises-là que nous avons dans le chapitre 2 et le chapitre 3. Je me suis dit que ces reproches, puisque la parole de Dieu est prophétique, ces reproches concernaient les églises qui ont existé, concernent les églises qui existent et concerneront les églises qui existeront, ou bien les communautés chrétiennes, je parle, ou les croyants, parce que dans son message, à l'adresse, dans son avertissement, à l'adresse des communautés chrétiennes. Donc, Yeshua, le Saint Yeshua, a parlé aux églises et a parlé individuellement à chaque membre. C'est pourquoi ce message sera intitulé « Ce que le Seigneur Yeshua te reproche » ou « Ce que le Seigneur Yeshua reproche à son église ». Vous savez, beaucoup de gens parlent de réveil, qu'une grande réveil va venir. Bon, moi, j'ai pas vu dans les prophéties, mais plutôt un abandon de la foi généralisée. Mais ce qu'on voit, c'est des réveils individuels. Le réveil ne peut être qu'individuel, parce que la Bible nous dit de veiller, de prier. Excusez-moi, hein. Excusez-moi, je tousse un peu. D'accord? Voilà. Donc, nous allons, sans plus tarder, parce que je ne veux pas, je voudrais faire... rester dans les 30 minutes, voilà, faire quelque chose de précis, de concis et de court, rester dans les 30 minutes afin de maintenir votre attention. Je prie et j'ai demandé au Seigneur vraiment de nous aider tous et que ce message nous édifie tous, nous fortifie et nous donne la grâce de nous sanctifier, d'achever notre sanctification à l'obéissance à la parole de Dieu. Et que nos pensées, nos raisonnements, nos idées soient amenées captives à l'obéissance au Messie et à l'obéissance du Messie. Donc si nous voyons donc dans le livre des Révélations, l'Apocalypse, le chapitre 2, parce que la Bible dans son entièreté est prophétique. Voilà, est prophétique. On nous dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Mon étude ne concerne pas l'église d'Éphèse ni ce que le Seigneur reproche à l'église d'Éphèse, mais ça brasse tout parce que ces sept types sont les sept types de croyants, sont les sept types de communautés chrétiennes, de dénominations qui existent aujourd'hui. Donc, ces reproches-là nous concernent tous. Ces appréciations nous concernent tous. Et parmi ces sept églises, il n'y a que deux qui ont trouvé grâce aux yeux du Seigneur Yeshua. L'église de Smyrne et de Philadelphie. Ça fait 20% à peu près. 30% plutôt. Je me dis, à part, et aussi dans les autres assemblées, il y a certaines personnes aussi qui sont restées fidèles. Vous voyez que c'est pas homogène un peu, mais il y a deux où les gens sont vraiment, où ces communautés-là sont vraiment homogènes, où si l'enlèvement survenait, ben ce sont dans ces deux communautés qui auront plus de personnes enlevées. 30%, mes frères et sœurs. Donc, travaillons, courons ensemble afin que nous puissions remporter la victoire. Je disais que le Seigneur Yeshua s'adressait à l'église, à la communauté, mais individuellement, parce qu'à la fin, il disait, celui qui vient vaincra. Il n'a pas dit ceux qui vaincront, il dit celui qui vaincra. Ou bien que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir. Voilà, donc il s'adresse aux églises, mais également à chacun de nous, à chaque disciple, à chaque membre, à chaque croyant et à chaque personne. D'abord, si toi qui écoutes ce message, tu n'es pas croyant en Yeshua ou bien en Jésus, ce message ne te concerne pas. Mais néanmoins, ce message te concerne parce que tu as la possibilité d'entrer dans la communauté des croyants, des disciples de Yeshua. C'est simple. La Bible nous dit que la parole vient de que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible nous dit que tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Donc, toi qui m'écoutes, qui n'es pas croyant, tu as péché et tu es sous la condamnation d'Élohim. Mais, dans son amour, dans sa miséricorde, l'Éternel Dieu a substitué à ta condamnation son Fils. Il a condamné son Fils. Son Fils a pris ta place, a pris son jugement sur lui pour que toi, tu ne sois pas condamné. Tout ce qu'on te demande, c'est de croire dans ce que la parole, dans ce que l'Éternel Dieu dit. Il a dit qu'il a tant aimé le monde, afin que quiconque croit dans son Fils ait la vie éternelle, et que la parole est dans ta bouche. Donc c'est à toi de confesser tes péchés, à toi de demander au Seigneur Yeshua de devenir ton sauveur, à toi de lui demander de devenir ton sauveur, ton Seigneur, à toi de mettre ta confiance en lui, parce que la foi, c'est la confiance. D'accord? Tu te repens, tu confesses tes péchés, et après, tu demandes à être sous le règne, sous la protection de Yeshua, parce qu'il a versé son sang, il a souffert pour toi sur la croix de Golgotha. Pourquoi la Bible dit la parole, c'est dans Romains 10, la parole est dans ta bouche. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yeshua, ou Jésus en français, et si tu crois dans ton cœur que Elohim, Dieu, l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ou bien quiconque invoquera le nom du Seigneur, le nom du Seigneur, le nom de l'Éternel sera sauvé, nous dit la parole de Dieu. Maintenant, pour nous qui sommes dans le Seigneur et qui marchons en nouveauté de vie, voilà ce que l'Éternel te reproche. Voilà ce que Jésus, notre Maître, notre Seigneur, le chef de l'Église, la tête de l'Église, reproche à toi, à l'Église et à nous tous. Nous reproche. D'abord, Le Seigneur, dans sa pédagogie, n'est pas allé directement au reproche. Il a d'abord fait le constat, il a constaté, il a fait une photographie de comment tu vis, de comment tu es, de comment tu marches devant lui. Comme il a dit ici, il connaît tes œuvres, ergon en hébreu, à faire emploi, ce à quoi chacun est employé, ce que chacun entreprend de faire, entreprise, dans ta mare, tout produit réel, ce qui est fait à la main, art, œuvre de eux aussi, œuvre de l'esprit, acte, ce qui est fait, action, tâche, ouvrage, travail. C'est un mot qui vient du mot ergon ou ego, travailler. Travailler, c'est en grec. Vous voyez? Donc, l'œuvre que tu fais, non seulement en tant qu'œuvre profane, bon, on peut le dire comme ça, entre guillemets, et œuvre dans l'œuvre du Seigneur ou dans l'Église. La fonction aussi que tu occupes dans la, parce qu'il y a aussi œuvre de l'esprit dedans. Acte, tout ce que tu fais, ainsi de suite. Le Seigneur connaît tout ça. Comment tu fais tes affaires, la manière dont tu te prends pour faire tes affaires. C'est pourquoi moi je dis toujours, en tant que disciple, mes frères et sœurs, nous devons faire attention pour ne pas appliquer les règles du commerce telles que elles sont définies aujourd'hui, parce que les règles du commerce telles qu'elles sont définies aujourd'hui sont établies des fois pour truander la clientèle, pour truander le client. J'espère que les hommes d'affaires de l'Évangile ont des balances justes. En tout cas, parce qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires aujourd'hui qui sont chrétiens, ils ont constitué un groupe. Bon, je ne sais pas, moi, je me pose beaucoup de questions. Je n'ai rien contre, moi-même, je suis allé à leur réunion. Mais si c'est simplement, on se réunit pour que les affaires fleurissent, c'est pas ça. La Bible nous dit, si c'est dans cette vie seulement que vous espérez dans le Messie, vous êtes quoi, les plus malheureux de tous les hommes. Mes frères et sœurs, notre espérance est céleste. Notre espérance est dans le royaume de Dieu, est dans le monde qui vient. Et le royaume de Dieu, c'est Yeshua lui-même. Mes frères et sœurs, ce que tu entreprends, le Seigneur voit tes œuvres, ce que tu fais, ainsi de suite, comment tu te débrouilles, comment tu obéis, et s'il te félicite pour cela, comment tu essaies d'achever ta sanctification, parce que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ton travail également, ton travail, c'est différent de l'œuvre. Kopos, battre, frapper, c'est un travail dur qui entraîne des douleurs. Dans ce travail-là, tu peux être persécuté. C'est dur. C'est copeau, c'est bas, se frapper la poitrine de chagrin, de douleur, travail inquiété, faire de la peine importunée, travail intense uni à de la peine. Or, travailler dans la vie du Seigneur n'est pas pénible. Mais travailler, oui, travail, ça peut être pénible des fois. C'est pas pénible parce que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Mais néanmoins, le chemin est difficile. Mais le Seigneur connaît tout ça. Comment tu prends ta croix chaque jour pour pouvoir obéir, pour marcher, aller de l'avant, il le sait. Il le sait. Le mot copos vient de copto. Copto. Couper, frapper, découper, arracher, se frapper la poitrine de chagrin. Se lamenter, couper, se frapper la. Donc, les douleurs, le chagrin que ça t'entraîne, les inquiétudes que tu te fais, les frayeurs qui t'assaillent, les angoisses qui t'assaillent. Le Seigneur dit qu'il connaît tout ça, il le sait, il connaissait ça, les labeurs, tout ce que tu fais pour lui, dans la vigne, dans son église, les gens qui parlent contre toi, dans ta fonction de pasteur, dans ta fonction d'ouvrier, dans ta fonction dans tout le ministère que tu exerces, même si tu balayes Même si tu sers à table, même si tu pries, tu jeûnes pour que l'œuvre de Dieu, avant tout ce que tu fais, il dit qu'il le sait, il te félicite. Il dit aussi, connaît aussi ta persévérance. Hupomone, hupomone, constance, persévérance, endurance, tout ce que tu endures pour lui, pour être loyal à la foi. Hupomone, le trait caractéristique d'un homme qui ne dévie pas de son but délibéré. Voyez, qui ne peut pas dire, oh non, maintenant que ça fait des années que nous sommes dans le Messie, que nous marchons en nouveauté de vie et que nous essayons de ne pas, de ne pas pécher, ainsi de suite, parce qu'on nous dit que celui qui est né de Dieu fait attention à lui-même et le malin ne le touche pas. Donc, qui ne dévie pas de son but délibéré, de sa loyauté à la foi et à la piété malgré les plus grandes épreuves et souffrances. Il sait comment tu souffres, comment tu es pauvre, tu manques de tout, tu es, voilà. Ça veut dire aussi patiemment, constamment, un homme patient, constant dans son attente, une patience qui endure, une patience qui endure, qui est ferme, persévérante, vous voyez. Hupomone, ça vient du terme hupomeno. Hupomeno veut dire rester, s'attarder derrière, rester, c'est-à-dire demeurer, ne pas s'éloigner ni s'enfuir de la foi à cause des épreuves, ne pas sortir, ne pas partir, ne pas abandonner ton assemblée, ne pas abandonner la voie que le Seigneur a tracée au travers de son corps. Conserver, parce qu'aujourd'hui, eh ben, à cause du monde, à cause de la politique, à cause de la pression du monde, voyez, mais certaines communautés chrétiennes retournent leur veste, puisqu'ils remettent en cause certaines parties de la parole de Dieu. Dieu, l'Éternel a-t-il réellement dit? C'est ce que nous voyons. La foi, bon, puisque dans beaucoup de communautés chrétiennes, on veut maintenant, on veut, il y a la théorie du genre qui est entrée. On veut même, on veut, on a, disons déjà, ordonné les prêtres ou bien les prêtres, non, pas les prêtres, oui, c'est l'Église anglicane, ou bien des pasteurs qui ont une orientation sexuelle différente, voilà. Et qui sont hommes avec hommes, voilà, ou femmes avec femmes. Il y en a partout maintenant. Même la théorie du genre est rentrée dans certaines communautés. Vous voyez, donc c'est, voilà, c'est pas la personne. Les gens se sont retirés. Les gens ont délibérément choisi de fuir la parole de Dieu, de sortir de la vérité, de sortir des voies bâti, des bonnes anciennes, on les a enlevées. D'accord? Mais le Seigneur, pour toi, il sait comment tu persévères, malgré les tentations, malgré tout ce que le monde peut t'offrir, malgré les tentations, malgré les épreuves. Voilà, tu es constant, tu ne supportes pas ceux qui désobéissent à la parole de Dieu, tu essaies d'obéir, tu aimes le Seigneur, tu es zélé pour lui, il connaît tout ça. Il connaît comment tu es persécuté, oh, nos frères et sœurs qui sont dans des pays où ils sont persécutés. Le Seigneur connaît tout cela, votre foi, votre persévérance, malgré même le risque de mort. Il y a un pasteur du Moyen-Orient qui a dit que quand tu es chrétien au Moyen-Orient, dans les pays islamiques, quand tu sors pour aller à une réunion, tu ne sais pas si tu reviendras. Mais vivant à la maison, voyez, les gens vivent ça dans leur quotidien, d'accord, mes frères. Il sait tout ça, il sait, il connaît. Mais néanmoins, comme il dit, ce qu'il a contre toi, voilà, ce qu'il a contre toi. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que d'abord, abandon du premier amour. Et dans ce mot abandon, nous avons rétrogradation. Nous pouvons avoir apostasie, impiété, abandonner. Ce verbe est autant aori, c'est-à-dire c'est permanent. C'est permanent. Donc c'est encore valable pour nous aujourd'hui. À la voix active. Donc c'est quelqu'un qui fait quelque chose de délibéré, qui choisit d'abandonner, qui choisit de reculer à cause des épreuves ou bien à cause des circonstances, qui choisit de partir, de sortir de la foi ou de rejeter le Seigneur Yeshua. Afeimé, 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 afeimé. C'est envoyer au loin, renvoyer, repudier, s'en aller. Un mari divorçant avec sa femme, céder, expirer, laisser aller, laisser faire, laisser dire, ne tenir aucun compte, vous voyez, de son premier amour. Les gens, au début, ils sont zélés, ils sont affermis, nous sommes zélés, affermis. Maintenant, on ne tient plus compte de la parole de Dieu. On ne tient plus compte de ce que Yeshua a dit. C'est ça, la Bible nous dit que Yeshua est la vérité. C'est lui la vérité. La vérité est une personne que personne ne peut remettre en cause la vérité. Parce que si nous remettons en cause la parole de Dieu, nous remettons en cause Yeshua. Si nous laissons la parole de Dieu, si nous abandonnons la parole de Dieu, nous abandonnons Yeshua. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de... C'est tout ou rien. D'accord? C'est tout ou rien. La Bible nous dit que Yeshua... Et le témoignage de Yeshua ou sa parole est l'esprit de la prophétie. Mes frères et sœurs, personne d'autre ne peut venir dire quoi que ce soit. Laissez ne pas discuter maintenant. Négliger, toi qui néglige le Seigneur, tu as abandonné ton amour pour lui. Rendre, ne pas garder. Ou bien quitter, laisser dans le but d'aller dans un autre lieu. Voilà, l'apostasie. La personne abandonne la foi. Yeshua, il va ailleurs. Il va chez quelqu'un, dans une autre religion. Il apostasie. Parti de chez quelqu'un. Il quitte le Seigneur. Il laisse le Seigneur. Parti, laissé à l'abandon. Déserté. Il déserte les rangs des croyants. Il rétrograde. Il part en laissant quelqu'un derrière, en laissant le Seigneur derrière soi. Nous le verrons dans l'église de Laodicée où le Seigneur dit qu'il est à la porte. Donc, l'église la sort. Yeshua est à la porte. Avant, il était au milieu des chandeliers, mais à la fin, lorsqu'il a commencé en parlant à Éphèse, il dit qu'il marche au milieu des sept chandeliers qui sont les sept assemblées. Et après, on le voit dans la septième assemblée, l'église de Dieu là aussi. Il était à l'extérieur. Donc, l'abandon du premier amour. Jean 14, le verset 21. Jean 14, le verset 21. On nous dit quoi là-bas? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Mais aujourd'hui, les gens, certains pasteurs, certains milieux remettent même en cause le commandement du Seigneur. Les gens ne veulent plus obéir. Alors que le Seigneur a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Un seul iode, un seul iota ne passera avant la fin des temps, avant son retour. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Celui qui demeure dans l'obéissance, c'est celui-là qui l'aime, qui prouve qu'il aime le Seigneur. Yeshua. 1 Corinthiens 16, le verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, Yeshua, le Messie, qu'il soit maudit. Ça, c'est Paul en terminant donc son épître, voilà. Maranatha, viens le Seigneur Yeshua. Voilà, donc c'est ça. Donc, mes frères et sœurs, abandonner, c'est ça. Abandon, voilà, on recule, on ne plus comme avant, on laisse le Seigneur, on ne lui obéit plus, on le déserte, on n'est plus zélé, on n'est plus prompt. Donc, l'abandon du premier amour, c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui. Soit c'est un abandon délibéré, l'abandon délibéré, ou c'est un abandon qui est plus subtil. Vous voyez, c'est lorsqu'on passe du mouvement au monument. on quitte l'orthodoxie, ou bien on installe une orthodoxie froide et non dynamique et non inspirée de l'Esprit de Dieu. Au contraire, la religiosité. Donc l'abandon du premier amour intègre rétrogradation, apostasie, impiété et également l'orthodoxie, l'installation d'une orthodoxie froide, d'une religion régie par des rites. Régie par des rites. Voilà, on abandonne le premier amour. Deuxième chose que le Seigneur te reproche, nous allons voir ça dans Pergame. Pergame, voilà. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Pergame, voilà. Qu'est-ce qu'il dit, écrit à l'ange? Bon, voilà, il y a le trône de Satan. Oui, Pergame, voilà. Vous savez, le trône de Satan qui était aujourd'hui est à Berlin. Ça a été démonté. Et s'est maintenant installé à Berlin. Et Hitler s'en est servi pour construire son esplanade sur laquelle il haranguait les foules. Mais ce qu'on appelle le trône de Satan, là, qui est à Pergame, a été démonté et installé à Berlin. À Berlin. Donc, deuxième chose que le Seigneur reproche à l'Église, et ou à toi aujourd'hui, voilà, c'est les fausses doctrines. Les fausses doctrines. Les faux enseignements. Des faux enseignements. Hein, les faux enseignements où les gens mélangent, font un mix, les gens se mélangent. Et ici, on nous parle, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Qu'est-ce que Balaam a fait? La Bible même nous l'explique. Qui enseignait à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les filles d'Israël? Quand Balaam, le prophète qui est attiré par l'argent, attiré par les cadeaux, n'a pas pu maudire les Israélites, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enseigné à Balak, à ce roi païen cananéen, d'amener les Israélites à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à leur envoyer les filles. Et c'est ce qui s'était passé. Les filles. Ces filles ont entraîné les Israélites, donc, à venir. Ce sont des belles filles. Elle les a entraînées, donc, les filles d'Israël, c'est le péché de la chair, hein. Sûrement que les filles cananéennes étaient très belles. Très, très belles, sûrement, comme les femmes aujourd'hui, hein. Voilà. Donc, si tu t'attardes sur la beauté d'une femme, tu seras complètement hypnotisé. Hein? Hypnotisé. Et c'est ce qui s'était passé. Donc, voilà, c'est la seule manière d'amener l'Éternel Dieu à punir les Israélites, à se détourner d'eux. Et c'est ce qui s'était passé. C'est Phinée qui avait arrêté cette plaie-là. Et donc, Balaam a enseigné ça à Balak, qui est allé à envoyer les filles. Et ces filles ont entraîné les Israélites dans l'impudicité et également à venir à leur sacrifice aux idoles. Donc voilà ce qui s'est passé. De la même manière, donc, et la Bible nous parle d'une doctrine des Nicolaïtes qui s'est inspirée ou bien qui est de la même veine ou bien qui reprend les mêmes comportement ou bien les mêmes pensées que Balaam. D'accord? Voilà, la doctrine des Nicolaïtes. Bon, on ne sait pas si ces Nicolaïtes sont les adeptes ou bien les fidèles du diacre Nicolas. Beaucoup ne sont pas sûrs, donc c'est vraiment quelque chose qu'on ne sait pas. Mais la doctrine des Nicolaïtes, c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait un mélange. Un accent particulier sur la doctrine des Nicolaïtes, donc, est mis. Donc, faux enseignement, fausse doctrine, où on dit, ah oui, Dieu a-t-il réellement dit ceci, Dieu a-t-il réellement dit ceci. Voilà. D'accord? Voilà. Donc, Dieu a-t-il réellement. Je me souviens. Donc, je ne vais pas polémiquer avec qui que ce soit, mais, vous savez, je me souviens de quelque chose. J'ai écouté un pasteur dire quelque chose vraiment qui m'a retourné, vous voyez, dans Actes. C'est Actes des apôtres. On peut l'appeler Actes du Saint-Esprit. Hein. Lors de la première conférence de Jérusalem, hein, de Jérusalem, donc, lorsque il s'est posé un problème entre juifs et croyants juifs et chrétiens et croyants païens, voilà, pas chrétiens, voilà, croyants hébreux d'ascendance hébraïque et des croyants d'ascendance goy, comme on dit, ou des nations. Et dans le verset 28, on nous dit, il a en effet, il a paru bon à l'Esprit Saint, au Saint-Esprit et à nous-mêmes. Donc, parce que la vérité est établie sur la déposition de trois témoins. Donc, d'abord, c'est Jacques qui prend. C'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer des difficultés aux croyants des nations qui se tournent vers Elohim, mais qu'il faut leur écrire d'éviter les souillures d'idoles. C'est ça, hein, c'est les souillures d'idoles. Voilà. L'immoralité sexuelle, l'impudicité, les animaux étouffés et le sang. Dans certains vieux manuscrits, et de ne pas faire et de faire aux autres ce que l'on veut qu'on te fasse. Il paraît qu'ils ont mis ça là-dessus. Dans certains manuscrits, on ça. C'est Monsieur Jean-Marc Taubois, notre regretté frère, qui l'avait dit. D'accord? D'animaux étouffés par le sang. Et dans le verset 28, on nous dit, en effet, il a paru bon Saint-Esprit et à nous, le témoin de Dieu, le Saint-Esprit. Voilà. Mais aujourd'hui, certaines veulent changer cela. Donc, ce que le Saint-Esprit a dit, non, ça ne te concerne pas toi. Voilà, parce que j'ai écouté un pasteur se moquer des chrétiens qui ne mangent pas le sang des animaux, le boudin. Mais la Bible nous dit qu'il a paru bon au Saint-Esprit à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang. Mais oui, du sang. De viande sacrifiée aux idoles, du sang, des animaux étouffés. Mais aujourd'hui, on nous dit non, on peut tout manger, c'est la liberté. Alors là, où est notre liberté? Moi, je ne comprends pas. Hein. Ce n'est pas une question de loi ou pas. Ça, c'est dans l'acte des apôtres, puisque certains chrétiens sont allergiques lorsqu'on parle de loi, mais il y a beaucoup de lois dans la parole de Dieu. Le mot Torah ne veut pas dire loi, le mot Torah veut dire enseignement. Par exemple, en hébreu, on peut dire Torah Yeshua, l'enseignement de Yeshua, Torah Yeshua, l'enseignement de Yeshua. On peut dire Torah Moshe, l'enseignement de Moïse. On peut le dire comme ça, d'accord? De viande sacrifiée aux idoles, du sang. Ben oui, du sang, des animaux étouffés. Pourquoi? Parce que le sang y reste dedans. Mais bon, je ne veux pas dire ça parce que bon, ça, des animaux étouffés de l'immoralité sexuelle. Voilà, l'immoralité, c'est sûr. Voilà. Alors, ce sont toutes ces choses contre lesquelles les Nicolaïtes sont contre. Ils ont une licence en toutes choses. On peut manger les viandes sacrifiées, on peut manger le sang, on peut manger ceci. Et puis également, on peut comment l'immoralité, l'impudicité, la polygamie. Aujourd'hui, certaines communautés chrétiennes, dites chrétiennes, ou certains soi-disant pasteurs, prônons la polygamie, que ce n'est pas un péché, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors que Yeshua a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Si Elohim, le Créateur, a voulu acter la polygamie, il aurait créé deux, trois, quatre femmes à Adam. Ce qui fait que quand à l'homme, en tout cas, à l'homme, parce que c'est comme Eva, Haya, on peut dire, Eve, on va l'appeler Eve, avait péché, il aurait dit, non, 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 je ne mange pas ta pomme, je préfère aller avec l'autre. Toi, tu seras condamné seul, tu mourras seul, voilà, moi, je continue avec l'autre. D'accord? Voilà, au commencement, il n'en était pas ainsi, a insisté Yeshua. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, je vois ça, beaucoup de soi-disant pasteurs, il y a même des pasteurs qui ont épousé deux, trois, quatre femmes. Voilà que Abraham lui-même a fait ça, comme il est le père de la foi. Donc, oh, il se permet ça. C'est de l'immoralité. C'est de l'impudicité. Donc, ces partisans de Nicolas, où les Nicolaïtes prônaient ces choses-là, voilà, une licence en toutes choses. La Bible nous dit de ne pas faire de notre liberté une occasion de vivre selon la chair. Ce n'est pas les fausses doctrines aujourd'hui, il y en a plein dans les assemblées. Les fausses doctrines de l'huile de couverture spirituelle, de l'huile dont, oui, l'huile des eaux bénites, de beaucoup, beaucoup de pratiques immondes qui se font dans des assemblées sous couvert de faut pas critiquer les uns, mes uns, faut pas faire ceci, faut faire cela, des choses iniques qui se font. Voilà, de couverture spirituelle, de bénédiction des choses, voilà, ou bien de la doctrine de l'évangile de la prospérité. Tu donnes 1 euro au Seigneur, il t'en donnera 1 000 ou 100, des choses comme ça. Il faut semer dans le ministère, la traversée de la nuit, ou bien la traversée de l'année, ou bien je ne sais pas quoi encore. Les gens font n'importe quoi, un toutou kanti, un gloubi-goulba, voilà, un gloubi-goulba total. On mélange tout, on mélange un peu de vérité avec un peu de fausseté, comme ça les gens ne se rendent pas compte. D'accord? Voilà, donc nous allons, on a vu il y a abandon 1, 2 fausses doctrines, 3 impudicité, immoralité, et également, voilà, nous continuons notre étude. En 4, il y a la tolérance et la liberté laissées aux faux prophètes et aux fausses prophétesses dans les assemblées. Dans les assemblées. Voilà. La liberté laissée. D'accord? Aux faux prophètes. Ben, aujourd'hui, ils sont légion. Aujourd'hui, la prophétie, c'est de dire aux gens, ah oui, tu auras un grand ministère, tu vas voyager, tu auras un ministère international, tu as fait ceci. Ce n'est plus le prophète, ne ramène plus le peuple à la crainte de l'Éternel Dieu. D'accord? Voilà, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Mais ce que j'ai dans le Apocalypse 2, le verset 20, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses, voilà, la femme Jézabel, bon, c'est une femme, une influenceuse. J'ai déjà fait une étude sur un écrit sur lui, là, Jézabel, l'influenceuse, voilà, une influenceuse, une dominatrice, ou bien quelqu'un qui a, ça peut être un homme ou une femme, hein, qui se dit prophétesse enseignée. C'est ce que tu laisses. Normalement, la Bible nous enjoint, nous demande de confronter, de tester les esprits pour voir s'ils sont vraiment de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus, parce que la Bible nous dit que Yeshua, donc, est le témoignage de Yeshua, est l'esprit de la prophétie. L'esprit, c'est le vent, c'est ce qui motive, c'est ce qui gouverne, c'est ce qui dirige la prophétie. Donc, si une prophétie n'est pas conforme à la vérité, à la parole de Dieu, nous devons l'éloigner de nous. Une prophétie qui ne nous ramène pas à la repentance, qui ne nous ramène pas dans la voie du Seigneur, dans la sainteté, nous devons les éloigner. C'est-à-dire, toute prophétie doit aller à la parole, doit glorifier Yeshua. Et c'est pour cela même que la parole et l'esprit vont ensemble. S'il n'y a pas de différence, Yeshua dit quelque chose que nous devons tous méditer. En parlant de l'esprit de vérité, il apparaît de l'esprit de vérité. Oh, Yeshua lui-même est la vérité. L'esprit de vérité, c'est l'esprit de lui-même. Et voilà, l'esprit de vérité. Quand l'esprit de vérité viendra, il prendra de ce qui est à lui. Il y a une unité avec Yeshua. Il prendra de ce qui est à lui, Yeshua, et va vous le donner. Le ministère, les dons, la parole, la vérité, tout cela appartient à Yeshua. Et il dit quelque chose de, il ne parlera pas de lui-même, c'est-à-dire il n'aura pas de divergence. Toute prophétie qui s'écarte de la parole de Dieu, du témoignage qu'a rendu Yeshua doit être écartée. Ce sont des fausses prophéties. Beaucoup de, ah oui, vous n'avez pas assez prié, c'est pourquoi la prophétie ne s'est pas réalisée. La Bible nous dit dans Deutéronome, je pense que c'est en 19 ou bien, oui, je me souviens, c'est le verset 18 ou 19 qui dit que si un prophète annonce quelque chose qui ne s'est pas passé, ben, c'est un faux. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes, ben, aujourd'hui, si c'était au temps de l'Ancien Testament, de l'ancienne période, mais ils devaient être lapidés. Plutôt en donnant de fausses prophéties. D'accord? Le ministère de prophète doit ramener les frères et sœurs, l'Église, à la crainte de l'Éternel Dieu. D'accord? Or, aujourd'hui, beaucoup de ces prophètes plutôt se prostituent. Ils font appel à des puissances autres qu'à l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, on nous enseigne, les gens tombent tout le temps dans l'esprit, ils tombent en masse, mais leur vie ne s'améliore jamais. On nous parle de réveil, on nous parle de ceci, on nous parle de ça, si ça n'arrive pas, on dit, ah oui, vous n'avez pas assez prié. Il y avait quelqu'un qui avait annoncé qu'il allait se passer quelque chose au temps de COVID, le 15 septembre 2021, c'est ça, mais... Ou 2020, oui, voilà, rien ne s'était passé dans le monde. Ou bien, on nous annonce le retour de Yeshua depuis 2017, mais rien ne s'est passé. La parole, oh non, Yeshua a décalé les choses, rien ne s'est passé. Mais ces personnes ne reviennent pas pour s'excuser. C'est ça qui m'étonne, quoi, que si vraiment ils avaient l'Esprit de Dieu véritablement, ils devaient venir s'excuser devant les frères et sœurs, dit frère, je me suis trompé, excusez-moi, j'ai rendu beaucoup de gens en erreur parce que à cause de ces prophéties, des fausses prophéties, donc, les gens ont posé des actes qui leur est préjudiciable. D'accord? Voilà. Les faux prophètes. Aujourd'hui même, pour voir des prophètes, il faut payer, hein. Ah, il faut payer. Ah, il y en a qui, il faut payer. Voilà. Et ils enseignent aussi des choses fausses, comme aussi qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, ou bien qu'ils peuvent se livrer à l'impudicité. Je me souviens, au cours d'une, lorsque j'étais quelque part dans mon pays, il y avait, au cours d'une émission que les jeunes, prisaient beaucoup, il y avait, une sœur qui avait dit quelque chose, quoi, que voilà, maintenant nous sommes dans le Seigneur, ainsi de suite, voilà, donc un frère et une sœur peuvent se coucher dans le même lit sans qu'il n'y ait rien, voilà, machin, oui, bah, ça a soulevé vraiment, ça a soulevé, hein, une tollée générale, hein, là, ça a soulevé vraiment. Tout le peuple s'est mis debout parce que ce n'était pas conforme à la parole de l'Éternel Dieu. Hein? D'accord? Voilà les faux prophètes. Il y en a beaucoup maintenant qui pullulent dans les assemblées et on voit que même les croyants, ils prennent part, quoi. Vraiment, quelqu'un qui dit qu'il téléphone à Dieu, qui parle avec Dieu au téléphone, non, c'est du n'importe quoi. Mes frères et sœurs, éloignons-nous de ces choses. Quelqu'un qui vous fait manger de l'herbe, quelqu'un qui vous demande de l'argent pour jeûner pour vous, quelqu'un qui vous demande de l'argent pour prier pour vous, pour faire ceci, éloignez-vous de ces gens-là. Quelqu'un qui se dit, ah oui, lui, il a accès privilégié auprès du Seigneur. Non, tout le monde a accès. Tous les enfants de Dieu ont accès à quel prophète qui vous dit quelque chose de contraire à la parole de Dieu. Éloignez-vous de lui. Fuyez, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui aussi, il y a beaucoup, beaucoup de fondateurs d'assemblées qui dominent leur assemblée comme des petits papes. On ne peut rien leur dire. Ils sont devenus infaillibles. On ne peut rien leur dire. Ça aussi, c'est des faux propres. Parce que Yeshua seul est la tête, le chef de l'assemblée ou de l'église. Yeshua seul est parfait, mais nous autres et tous ceux qui sont des croyants, mais nous sommes faillis parce que la Bible nous dit, nous connaissons en partie et nous prêchons en partie. Une seule personne ne peut pas tout connaître. Même Paul, l'apôtre, dans toute sa dimension, dans toutes ses révélations des fois, a dit, le Seigneur m'a caché quelque chose. Il devait se rendre dans une ville et le Seigneur lui a caché ce qui allait se passer. Voilà, lui a caché. Lui-même l'a dit que le Seigneur lui a caché. D'accord? Donc même Paul n'avait pas accès à tout. À tout, le Seigneur ne lui révèle pas tout, malgré la révélation qu'il a eue d'aller jusqu'au troisième ciel, mon frère et sœur. Parce que seul Yeshua a l'Esprit de Dieu sans mesure. Aucun homme, aucun être humain, aucun croyant n'a l'Esprit de Dieu sans mesure. Ça, c'est aussi une fausseté. Une fausseté. Alors la personne est infaillible alors. Voilà, d'accord? Donc, nous continuons. Donc, un, abandon de la foi, fausse doctrine, impudicité et immoralité, tolérance et liberté données aux faux prophètes, alors que la Bible nous dit de les chasser, de les confronter, de les dénoncer, que nous les reconnaîtrons à leurs fruits. Fuyez ces gens-là, fuyez ces gens qui pratiquent, qui sont devenus des bishops, qui sont devenus, ils se mettent des titres vraiment plus ou moins ronflants, tout cela, voilà. Quatrième chose, non, quatrième, on l'a dit, tolérance de liberté. Cinquième, l'hypocrisie. C'est dans l'église de Sardes. Il dit, je sais que le verset écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais les œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Voilà. Alors que les gens, en voyant l'apparence de cette communauté, voilà, on dit, ah oui, c'est une église dynamique, c'est une communauté dynamique. Mais non. Mais seul Yeshua connaît la vérité de cette personne. C'est une religiosité, une hypocrisie religieuse. Une hypocrisie religieuse parce que cette communauté ou bien ces personnes ou toi, tu marches dans la désobéissance. Voilà, la plaie est tellement grande que ça s'est étendu à toute cette assemblée, puisque le Seigneur dit, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, parce qu'il y en a qui ne sont pas encore atteint totalement. Et la Bible nous dit que le Seigneur dit car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites, tes œuvres accomplies, tes œuvres remplies. On nous dit que le disciple accompli ou bien le disciple parfait sera comme son maître. Donc il y a l'hypocrisie, la désobéissance, l'indolence. L'indolence, parce que le mot parfait, pléro, remplir jusqu'au bord, faire abonder, d'accord, remplir au sommet, c'est ça, accompli, exécuté, ça vient du verbe pléres, plein, être rempli, voilà, qui lui-même vient du pléto, vient de pléto, être accompli, être rempli, voilà, être rempli. D'accord? Voilà. Donc, il y a aussi l'indolence. L'indolence, où les gens ne sont pas zélés, le manque d'attention également, hein, le manque d'attention. Le manque d'attention, d'accord? Voilà. Le manque d'attention également. Hein. C'est ça. Où les œuvres ne sont pas attentionnées, les œuvres ne sont pas complètes, les œuvres ne sont pas bien remplies, où les gens sont indolents, les gens ne se pressent pas pour faire la volonté de Dieu, le Seigneur te dit quelque chose, tu ne le fais pas, tu traînes les pieds. D'accord? Qui traîne les pieds, tu ne fais rien, tu es là, hein, tu es, voilà, tu n'es pas actif, tu procrastines, la procrastination spirituelle, tu ne veilles pas, tu es là, ainsi de suite, voilà, donc oh, c'est ça. Et en dernier, 6, nous voyons tout ce que le Seigneur a reproché à l'église de Laodicée. D'accord? L'église de Laodicée. La tiédeur. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Je connais tes œufs. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? C'est dans Apocalypse 3, le verset 14 et 15. Ainsi, parce que le verset 7, tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà, d'accord? La tiédeur, le manque de zèle. On s'installe dans une sorte de religiosité, d'orthodoxie, de religion. Voilà, on va simplement à l'assemblée. On ne dit même pas qu'on va à l'église parce que nous sommes l'église. On va à l'assemblée le dimanche. Voilà, on chante Alléluia, on prie, on donne une prière de circonstance et puis on revient, on ferme sa Bible. Non, c'est non, ça c'est pas faire l'œuvre de Dieu. Comprends le travail, l'œuvre de Dieu. Comprends la méditation, la prière. La Bible nous dit de prier sans cesse. La Bible nous dit de faire toutes sortes de prière en toutes circonstances. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, alors que toi, tu passes ton temps à regarder la télé, à regarder des émissions inutiles, à regarder des choses qui ne fortifient pas. Nous devons tous nous discipliner, en commençant par moi. Moi-même, je le dis, j'ai besoin de discipline dans ma vie. J'étais plus discipliné avant. Lorsque j'avais connu le Seigneur dans les années 90, j'étais plus discipliné. Bon, j'étais plus discipliné. Franchement, j'étais plus discipliné. D'accord? Mais le Seigneur fait son travail. Voilà, nous tous, nous allons retourner. Retourner à notre ancien amour, à notre ancien. Nous allons retourner à cela. Pour que nous soyons zélés, pour que nous soyons bouillants, 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 bouillants pour le Seigneur. Donc, tiédeur, absence de zèle. Voyez, c'est une église qui vit dans la suffisance. Il dit, je suis riche. Je suis riche. Je me suis enrichi. J'ai déjà fait un message sur le syndrome de Laodicée. Hein, c'est sur le site Yeshua, campagne pour Yeshua.com. C'est sur le site. Allez écouter, s'il vous plaît. D'accord, je suis riche. Je me suis enrichi. Je suis riche, dit. Ah oui, j'ai tous les ministères. J'ai tous les dons. J'ai de la richesse. J'ai des hommes d'affaires parmi moi. J'ai des. Voilà, je suis riche. J'ai des gens qualifiés. J'ai la crème de la société. J'ai ceci, j'ai cela. Oh, le Seigneur nous a bénis. Nous n'avons plus besoin de même de l'Esprit de Dieu. Nous avons tout. Là. Je me suis enrichi. Je dis que en disant qu'il s'était enrichi. C'est que il a trouvé les voies et les moyens pour s'enrichir. Il n'a besoin de rien, même pas de Yeshua, alors que Yeshua nous a dit dans Jean 15, hein, dans Jean 15, il nous a dit, qu'il est le cep et nous sommes les sarments. que tout sarment qui est attaché à lui produit de fruits. Tout sarment qui n'est pas attaché ne produit pas de fruits. Alors que lui dit, il n'a besoin de rien. C'est ce que nous dit l'évangile de prospérité, c'est ça. Hein? Nous sommes riches, nous avons des voitures, nous avons des ceci, nous avons cela. Oh, nous n'avons plus besoin du Seigneur, hein? C'est fini. Yeshua est allé à la croix pour que nous soyons riches. Oh, nous mangeons des caviar, nous avons même nos toilettes climatisées. D'accord, je suis enrichi. Et cette église, font tout parce que pour être riche et demeurer riche, mais il faut trouver les voies, les moyens pour continuer à maintenir sa richesse. Donc, ils mettent en place une stratégie pour s'enrichir. C'est ça. Les offrandes, les dîmes, ceci par ici, les programmes, ceci, on culpabilise les gens, on vend des indulgences, on vend des liquides comme disant que c'est le sang de Yeshua, on vend de l'eau qui est bénie, on vend de l'huile qui serait bénie, machin, des choses vraiment abominables. On vend les bénédictions de Dieu aux marchands, aux femmes qui n'ont pas, qui sont infertiles. On vend des accessoires. On vend des, je ne sais même pas quoi. On vend tout aujourd'hui dans les assemblées. On vend tout, on vend des livres, on vend ceci, des méthodes. Mais le Seigneur, si tu as reçu, mais ça ne t'appartient pas. Alors pourquoi tu ne veux pas partager? Si tu l'as reçu, ben, donc ça ne t'appartient, si c'est l'Esprit de Dieu qui l'a inspiré, donc ça ne t'appartient, tu n'es pas le propriétaire. Mais si tu dois vendre un livre, tu devais normalement le vendre à un prix dérisoire. Pourquoi? Parce que ce livre fait partie de l'œuvre d'évangélisation, de l'œuvre que le Seigneur t'a conseillé de faire. D'accord? Donc, dans ce que le Seigneur te reproche, c'est d'être absent de zèle, de cette suffisance, cet orgueil que tu as, ce manque d'humilité, cette religiosité, cette apparence que tu as, cet amour propre que tu as pour toi-même. Hein, que cette séparation du cep, de la tête de Yeshua, c'est-à-dire que ces communautés chrétiennes ne sont plus dirigées par l'Esprit de Dieu, mais par la sagesse, la pensée du dirigeant. C'est ça. Ou bien tu te diriges toi-même. D'accord? Tu ne dépends plus du Seigneur, tu ne dépends plus du Messie, tu ne dépends plus de l'Esprit de l'Éternel Dieu. Voilà mon frère, ma sœur, dont nous devons faire très attention. Toutes ces choses-là, on les voit dans la vie de l'Église, on la voit dans la vie des communautés, dans nos vies, on le voit, mais le Seigneur, Yeshua, ne fait pas que dénoncer. Comme un bon médecin, il donne aussi la conduite à tenir ou les remèdes qui vont nous amener donc à revenir sur ce chemin rocailleux et étroit. Donc, la première des choses, je ne vais plus lire, c'est la repentance. Repens-toi. Souviens-toi de d'où tu es tombé et reviens. Repens-toi. Donc, la première chose que Yeshua dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Luc 3, le verset 3 et 8, Actes 20, le verset 21. Repens-toi. La consécration. Hein, repens-toi, rappelle-toi d'où tu es tombé, reviens, fais, pratique les bonnes œuvres, les œuvres d'avant, pratique les bonnes œuvres. La sanctification, 3, hein, 1 Thessaloniciens 4, le verset 4, parce que c'est ce que le Seigneur veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3 et 4. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Voilà, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Lorsqu'on est consacré, lorsqu'on se repent, on se consacre, on prend sa croix chaque jour. On essaie de nous préserver. On se préserve nous-mêmes pour que le malin ne nous touche pas. Hein? Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. le verset 7. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Et Paul renchérit l'esprit de rang. Celui qui donc qui rejette ces instructions ne rejette pas un homme, mais Elohim lui-même, qui nous a aussi donné son Esprit Saint. Parce que personne ne dit le Seigneur que Dieu est Seigneur, ce n'est pas le Saint-Esprit. Hébreux 12, le verset 14, vous pouvez voir. Voilà, l'obéissance. 1 Samuel 15, que nous connaissons. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, le verset 22. 1 Samuel 15, le verset 22. L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Voilà, que la graisse des béliers. La graisse des béliers. La graisse des béliers. L'obéissance. Et la Bible nous dit aussi dans Jacques, non? Jacques, que n'écoutons pas seulement la parole, mais mettons-la en pratique. N'écoutons pas simplement la parole de Dieu, mais mettons-la en pratique. Lisons dans Hébreux 5, le verset 8. Je pense que j'ai largement dépassé mon temps. Excusez-moi. On nous dit, a appris bien qu'il fut fils n'obéissant pas les choses qu'il a souffertes. Voilà. En parlant du Seigneur Jésus. Romains 15, le verset 18. 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 Car je n'oserais mentionner aucune chose que le Messie n'ait pas faite pour moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Et par les actes. Et par les actes. Voilà. Voilà, l'obéissance, retour au Seigneur, c'est-à-dire à sa parole. Jacques 1, le verset 22. Jacques 1, le retour à la parole, à la pure vérité. La parole et la parole, c'est tout. Pas autre chose, pas les artifices. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. 24. Qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré plutôt, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité ou bien dans son œuvre ou dans son travail. Le retour à la parole, sola scriptura. Une dépendance totale de Yeshua, une dépendance totale à Yeshua et de l'esprit de vérité. Jean 15. Jean 15, le verset 4 à 5. Jean 15. J'en avais déjà parlé tout à l'heure. Jean 15, le verset 4 à 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est clair comme l'eau de roche. Car sans Yeshua, nous ne pouvons rien faire. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Parce que la Bible nous dit que Personne ne dit Yeshua Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. D'accord? Ou bien que l'Esprit prendra ce qui est à lui et nous le donnera. C'est lui qui parle à travers nous. D'accord? Nous devons dépendre, chercher à dépendre de lui et non pas à nous tromper par de faux raisonnements, c'est-à-dire la théologie. La théologie en disant, mais non, c'est pas comme ça, c'est ceci, Yeshua, non, il n'était pas vraiment Dieu, il était ceci, il était cela. On discutaille. Si, je sais pas si ça existe, hein. Ça n'existe pas, discutailler, mais je viens de l'inventer. D'accord? Voilà. On discute, on fait ceci, on fait cela, on dit, mais non, machin, non, ceci, cela, non. Dieu est amour, Dieu est la grâce, vous voyez, l'hypergrâce. L'hypergrâce, les gens sous couvert de la grâce veulent, ah non, Dieu, c'est la grâce, oh non, 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 il ne condamne personne, il n'est pas comme ça, oh bien, vraiment, hein, vraiment, c'est vrai, pas de faux raisonnement dit. Or, la Bible nous dit qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, il est terrible de tomber entre ses mains. Il n'a pas épargné l'ancien monde, la génération de Noé. Il n'a pas épargné Sodome et Gomorre, mes frères et sœurs. Et il n'épargnera pas non plus ceux qui auront péché, ceux qui ne seront pas trouvés dans le livre de vie. Et dernier, veillez et priez. Luc 21, le verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ailleurs, il a dit, car la chair est faible, mais l'esprit est prompt. À ce qui arrivera, nous dit la Bible, ce qui va, en fait, de paraître debout, ce qui va arriver. Les choses arrivent déjà. Je reviens là-dessus. Les choses arrivent déjà. Mes frères et sœurs, les choses arrivent. Dieu, l'Éternel, Elohim nous parle tous les jours dans l'actualité, dans ce qui se passe dans le monde. Prenez garde. Marc 13, le verset 33. Veillez, priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Mes frères et sœurs, veillons et prions. Éphésiens 6, le verset 18. On nous dit, faites en tout temps par l'esprit toutes choses de prière et de supplication. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Dans Luc que nous venons de lire, on nous dit toutes ces choses qui viendront. N'est-ce pas? Hein? Luc 21, 36, on nous devait donc prier toutes ces choses qui arriveront. Et les choses arrivent déjà. Nous ne sommes plus dans le futur. Il y a eu des inondations, non, terribles. L'année dernière, non, en Chine, en Europe, ici, en Belgique, au Portugal. Il y a eu des tempêtes de neige aux États-Unis. Il y a eu le feu au Canada, un peu partout. Il y a eu le tremblement de terre tout récemment en Turquie. 40 000 morts, même plus que ça. Mes frères et sœurs, Yeshua est à la porte. Dieu nous parle. Le Seigneur est en train de nous parler. Regardez, parce que la Bible nous dit, veillez, priez. Nous devons veiller. Veiller, c'est une attitude de vigilance. Veiller en scrutant les choses, en ce qui se passe dans le monde. Le monde est une Bible ouverte parce que la Bible nous dit que ce que nous pouvons découvrir de Dieu, que les païens même le trouvent dans le monde, c'est dans la création de Dieu. De même, tous les événements qui arrivent, d'accord, nous parlent. Doit nous alerter. Ce sont des balises qui nous montrent que Yeshua s'approche. Yeshua s'approche. Nous devons faire attention. C'est pourquoi nous devons veiller et prier, car la chair est faible, mais l'esprit est prompt. Lorsque nous allons, voyez, des inondations, et des maladies, l'épidémie là. Voilà, j'ai oublié cela. Yeshua nous parle. D'accord? Les choses sont en train de nous accomplir, mes frères et sœurs. Reviens, 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 reviens au Seigneur. Laisse les habitudes de ce monde. Laisse la jouissance de ce monde. Reviens à lui. Nous devons tous retourner à Elohim. Nous devons tous retourner à la parole de Dieu. La Bible dit, je pense que c'est dans Osée, à la loi, comment dire, à la loi, oui, oh, il y a un mot là, à la loi, et à la, attendez, je vais chercher, que si l'on ne parle pas ainsi, il n'aura pas d'aurore pour le peuple. Il n'aura pas d'aurore pour le peuple, vous voyez. À la loi, je ne sais plus. À la loi et au témoignage, c'est dans Ésaïe 8, le verset 20. À la loi et au témoignage, que si l'on ne parle pas ainsi, il n'aura point d'aurore pour le peuple. À la loi et au témoignage. Voilà, Torah, le témoignage. Théoda, le témoignage, théoignage, attestation, confirmation. Or, la Bible nous dit que le témoignage de Yeshua est l'esprit de la prophétie. À la loi, témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'aura point d'aurore pour le peuple. D'accord? À la loi, témoignage. Donc, mes frères et sœurs, le Seigneur nous parle chaque jour qui passe dans les événements, dans tout. Il n'y a jamais de hasard avec la parole de Dieu. La dernière fois, j'ai écouté au cours de cette, après le tremblement de terre, il y avait une dame, une turque qui disait « Antioche est dévastée, Antioche n'existe plus ». Mais ça m'a vraiment frappé parce que Antioche, c'est la ville, c'est une ville de disciples où il y avait des docteurs, où il y avait des prophètes, des apôtres, des docteurs, des diacres, ainsi de suite. Et la Bible nous rend témoignage que c'est dans cette ville, pour la première fois, que les disciples ont été appelés chrétiens, c'est-à-dire messianiques. Ont été appelés messianiques, d'accord? Petit Messie. Les suivants du Messie ont été appelés messianiques. C'est dans cette ville. Et le tremblement de terre a eu là-bas. Antioche est revenu dans l'actualité, mes frères et sœurs. Le Seigneur est à la porte. Revenons à lui là. Laissons de côté. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de dissensions dans, parmi les croyants, des disputes, ainsi de suite. Moi, toute personne qui croit, qui marche en nouveauté de vie, même s'il ne partage pas entièrement mes points de vue sur certaines choses, c'est mon frère, pourvu qu'il marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà, à la parole. Même s'il n'a pas la même interprétation de certaines choses avec moi, il ne vit pas dans le péché, c'est mon frère et ma sœur. Oh, mes frères et sœurs, revenons, repentons-nous, revenons, repens-toi, toi qui m'écoutes. Regarde tout ce que le Seigneur vient d'énumérer. Si est-ce qu'il y en a dans ta vie, abandon du premier amour, fausse doctrine, faux enseignement, immoralité, impudicité, tolérance, nos yeux aussi voient beaucoup de choses. Tolérance et liberté laissées aux faux prophètes, aux faux enseignements, hypocrisie, désobéissance, indolence, manque d'attention. D'accord? Manque d'attention, tiédeur, absence de zèle, suffisance, orgueil, manque d'humilité, religiosité, amour propre, d'accord, séparation du Seigneur, rétrogradation, ainsi de suite, il y en a beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête là, j'ai énuméré les grandes lignes, je pense que j'ai dépassé mon heure, excusez-moi. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne la grâce de revenir à lui, quoi, de vraiment revenir à lui. Mes frères et sœurs, revenons au Seigneur, repentons-nous, allons à lui. C'est lui seul qui nous rétablira, c'est lui seul qui nous donnera la force de marcher dans sa parole jusqu'à la fin des temps. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que le Tout-Puissant Dieu vous bénisse et nous garde. Amen et amen. Faites un tour sur le site Campagne pour Yeshua. Le site est en train d'être refait. Faites un tour, vous trouverez beaucoup, beaucoup d'éléments pour édifier votre foi, pour évangéliser également, hein, d'accord? Et voilà. Et puis ça nous fera connaître un peu plus que l'Éternel, notre Dieu, à tous, nous bénisse et nous garde et nous donne la force de continuer. Amen et Amen au nom de Yeshua.